je sors de ma chambre. Je me souviens que j'ai saisi, c'est un peu bête, mais j'ai saisi un couteau. J'avais un couteau assez impressionnant, une baïonnette d'ailleurs, et je l'ai glissé sous le siège de ma voiture.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sarah.
Merci d'être là.
Merci à toi.
Donc aujourd'hui, tu as une cinquantaine d'années. Tu es à Paris chez moi, mais tu n'es pas parisien. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu faisais il y a une petite dizaine d'années comme travail?
Eh bien aujourd'hui, effectivement, je vis et je travaille à Nice. C'est le cas depuis une douzaine d'années. Je suis inspecteur général des services de cette belle ville et de cette belle métropole. Et il y a une dizaine d'années, j'étais déjà à Nice, comme je viens de le dire, et j'exerçais les fonctions de directeur de cabinet adjoint.
Et tu aimais ça ?
J'aimais ça, oui. J'aimais ça parce que ce sont des métiers de passion, d'excitation, et puis parce que le territoire et les gens avec lesquels je travaillais m'animait beaucoup, m'intéressait beaucoup, donc j'étais vraiment très heureux.
Et alors, question peut-être bête, mais ça fait quoi un directeur de cabinet ?
Un directeur de cabinet adjoint, hein, puisque à l'époque j'étais directeur de cabinet adjoint, eh bien on est, on va dire, à la fois le dernier rempart avant le président maire, c'est-à-dire qu'on veille à ce que les éléments, les documents qui lui sont préparés soient de bonne qualité, on veille aussi à ce que l'administration, eh bien, remplissent le contrat qui a été passé avec les Niçoises et les Niçois quand il est devenu maire président. On s'assure que effectivement notre projet politique soit mis en œuvre par l'administration.
T'es parisien d'origine ?
Je suis pas du tout parisien. Je suis bordelais.
D'accord.
Voilà, je suis bordelais, mais ce sont les hasards de la vie qui ont fait que je n'ai jamais travaillé à Bordeaux. J'allais dire je n'ai jamais réussi, mais en tout cas, j'ai pas véritablement cherché, mais ça ne s'est pas produit.
Et
je n'ai pas été prophète en mon pays.
Pas encore.
Pas encore.
Je pose une question peut-être naïve, mais c'est pas bizarre de travailler là où les gens partent en vacances ?
C'est vrai que c'est une ville qui est très marquée par le tourisme, mais c'est une vraie capitale, Nice. C'est vraiment la capitale des Alpes-Maritimes, de toute cette moitié même de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une ville qui exerce toutes les centralités administratives, la préfecture, l'hôpital, le palais de justice. Donc c'est une ville qui va très au-delà, effectivement, de cette vocation touristique et balnéaire, mais en même temps, oui, c'est notre ADN. On l'a vu d'ailleurs au moment de notre inscription à l'UNESCO en 2021, puisque c'est la ville de Riviera, la ville de tourisme de Riviera, construite par ça, qui a été effectivement distinguée. Donc, c'est très agréable de vivre dans une ville effectivement comme celle-là.
J'imagine. Et puis un jour, t'es chez toi. Et tu reçois un appel.
Oui, c'était un jeudi. C'était le jeudi 14 juillet 2016. J'avais passé une journée chez moi, tranquille. Je m'étais un petit peu disputé avec ma fille parce que elle voulait absolument participer au 14 juillet et voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Et je le lui avais interdit. Moi, j'ai jamais aimé la foule et je voulais pas qu'elle y soit. Alors évidemment, elle s'était vraiment énervée. Toutes ses amies étaient censées
elle avait quel âge ?
Être là-bas. Elle avait 14 ans, 15 ans, quelque chose comme
petite,
ça.
Quoi.
Oui, elle était quand même un peu jeune. Et puis surtout, je lui avais promis qu'elle irait au concert de Rihanna qui devait se tenir, je crois, le lendemain ou le surlendemain à Nice. Donc voilà, je considérais que c'était bien comme sortie et que elle pouvait passer le feu d'artifice du 14 juillet.
Et donc ?
Et donc, je suis dans ma chambre, il est 22h40-45, je suis en train de lire, et justement, Apolline descend et me dit « Papa, il y a eu un attentat, ça tire sur la promenade des Anglais ». Bah, je lui dis « Mais comment ça, Apolline ?» Et en fait, elle avait toutes ces informations par les réseaux sociaux, son téléphone n'arrêtait pas, tous ses amis qui étaient effectivement sur la promenade des Anglais, sur la plage, lui envoyaient ces éléments, et quasi instantanément, pendant qu'elle me racontait ça, je reçois un appel du directeur de cabinet, mon ami Anthony, qui me confirme la chose, qui me dit effectivement, Guillaume, un attentat a eu lieu, il faut que tu viennes, tu vas passer récupérer quelqu'un, un autre membre du cabinet à tel endroit, et puis rejoins-nous au centre de supervision urbain.
Qu'est-ce que tu penses à cette seconde-là? Est-ce que tu penses à la ville, à ta fille qui aurait pu être là? C'est quoi le film qu'il y a dans ta tête à ce moment-là?
C'est tout de suite... Une forme de concentration, incrédulité, parce que effectivement, même si on avait entendu parler dans les mois précédents d'attentats, on se dit pas chez nous, mais beaucoup de concentration. Donc je sors de ma chambre. Je me souviens que j'ai saisi, c'est un peu bête, mais j'ai saisi un couteau. J'avais un couteau assez impressionnant, une baïonnette d'ailleurs, et je l'ai glissé sous le siège de ma voiture, et je descends vers la promenade des Anglais pour récupérer la personne qui s'appelait Véronique, qui était aussi membre du cabinet, et pour aller plus vite, nous engageons sur la voie de tram qui nous faisait remonter la totalité de l'avenue Jean-Médecin pour aller se positionner au centre de supervision urbain, qui est dans un quartier de Nice qui s'appelle le quartier de Libération. Je me souviens que ça m'a paru étrange de rouler à cet endroit-là, parce que je ne l'avais jamais fait de remonter comme ça sur cette voie de tram jusqu'au CSU. C'était vraiment très étrange. Et puis, nous arrivons là-haut, je positionne ma voiture. On s'engage dans l'ascenseur qui nous amène à l'étage où est situé le centre de supervision urbain. Et là, je vois beaucoup de monde. Je croise le maire, je croise le directeur de cabinet, je croise beaucoup de gens que je ne connais pas, qui sont des policiers. On voit que est en train de se monter le PC crise de l'attentat. Et effectivement, je découvre sur nos écrans l'horreur qui s'est produite sur la promenade des Anglais. À ce moment de la soirée, en réalité, il y a beaucoup de confusion. On parle de beaucoup de d'attentats, de coups de feu à d'autres endroits de la ville que sur la promenade des Anglais. Et donc le premier travail du centre de supervision urbain a été de lever ces doutes. Donc on est assailli de coups de téléphone, beaucoup de gens appellent le centre, le PC, comme je l'ai dit, se met en place, les rôles se répartissent. Et moi, mon rôle qui m'a été assigné par le maire et par le directeur de cabinet, c'est d'être à l'écoute on a été en fait immédiatement assailli de coups de téléphone de la part de d'autres villes, de la part de membres du gouvernement, etc. Je faisais un peu le tri de tout ça, voilà. Et puis on est encore une fois dans cette phase de levée de doute. C'est assez calme. Il y a le directeur de cabinet du préfet, il y a les services de police divers et variés, et au bout de, je crois, une petite vingtaine de minutes, on fait un briefing avec les autorités de la préfecture et le maire pour savoir un peu quels sont les éléments que nous avons. Et là, en fait, se dessine l'ampleur du drame. Il y a probablement des dizaines de victimes, énormément de blessés. Les plans sont déclenchés et nous voilà à avoir à gérer vraiment l'horreur et le dans le cœur de la crise.
T'avais été préparé à vivre une crise comme ça? Tu savais quoi faire? Ou c'est instinctif, chacun, parce que vous travaillez depuis longtemps ensemble, chacun a pris sa part du boulot spontanément?
Oui, en fait, on n'est jamais préparé à vivre des choses comme celle-là, mais malgré tout, l'habitude de travail avec les uns et avec les autres, notamment avec le directeur de cabinet, avec le maire, fait que on s'est bien coordonné, on s'est bien calé. Donc, je le disais, j'ai pris un certain nombre d'appels. On a des appels d'ailleurs assez touchants de gens qui nous demandaient ce qu'ils pouvaient faire pour nous. C'était le cas de la ville de Paris ou d'autres villes de France qui, vraiment, par l'intermédiaire d'élus ou de membres de cabinet, cherchaient à nous aider. Et puis, il y a eu aussi des particuliers qui téléphonaient pour demander ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider. On a eu assez vite un sujet qui était lié au fait que les victimes étaient sur la promenade, exposées aux vues de tout le monde. Et je pense que ce sont les services de police qui nous ont assez vite demandé de disposer des draps et de disposer une sorte de barrière. Voilà.
Est-ce que pour ceux... Si, peut-être qu'il y en a qui ne connaîtraient pas la nature de cet attentat. Est-ce que tu peux dire ce qui s'est passé?
Eh bien, c'est un homme, un djihadiste vraiment militant pour faire une horreur pareille, qui s'est emparé d'un camion bélier et qui a écrasé les gens qui quittaient le feu d'artifice du 14 juillet qui venait juste d'être donné et démarrer une nouvelle activité qui s'appelle la prom party qui voyait se déployer comme ça sur la promenade des Anglais des concerts un peu partout avec des types de musique un peu différentes. C'est un mode opératoire d'une barbarie sans nom. Qui a créé dans la ville une onde de choc immense parce que il y avait plus de 30 000 personnes sur la promenade des Anglais. Il y a eu un mouvement de panique immense. J'évoquais tout à l'heure les amies de ma fille qui étaient sur la plage. Elles ont couru sans pouvoir s'arrêter sur des centaines de mètres pour se cacher dans des buissons à côté du monument aux morts. Enfin, ça a été vraiment comme une onde après qu'une pierre a été jetée dans l'eau.
Donc on est au début de la nuit.
Alors je fais venir des membres de l'administration, des directeurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler pour leur confier cette mission de se rendre sur la promenade des Anglais et de disposer ces draps dont j'ai parlé tout à l'heure qui constituaient une barrière pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail un peu plus sereinement qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent. J'ai envoyé ces deux hommes, Alain et Thierry, se confronter vraiment à l'horreur. C'est un traumatisme immense pour eux. Ça a été vraiment très très difficile pour eux d'assumer tout ça, mais ils ont fait leur travail. De même que je dois dire l'intégralité des agents de la ville de Nice qui étaient présents ce soir-là, ont réagi avec beaucoup de professionnalisme et de maîtrise face à quelque chose, encore une fois, qui est totalement indicible.
Tu dis que ça a été très difficile à vivre pour eux et pour toi?
Ça a été très difficile à vivre pour moi avec le recul. Encore une fois, pas dans cette nuit. Cette nuit a été consacré à la gestion de cette crise au fur et à mesure que le s'est avancé le temps, on a pu effectivement fermer les hypothèses d'autres attentats dans la ville. Certains disaient que les choses se passaient du côté de la gare, etc. Et on a pu petit à petit dire que tout ça n'existait pas et se concentrer sur ce qui s'était passé réellement, c'est-à-dire l'intrusion de ce camion avec tout ce qu'il a fait. Avant que toutes les images soient saisies par la justice, on avait pu se rendre compte et remarquer que à un moment le camion était suivi par un scooter et on a été vraiment très très intrigué par ce scooter qui suivait le camion sur la promenade des Anglais pendant que il opérait sa tuerie. Et en fait ce scooter était conduit par un garçon que je rencontrerai plus tard et qui est devenu mon ami, qui s'appelle Franck Terrier, qui spontanément a déposé sa femme qui était derrière lui sur le scooter en disant « mais je ne peux pas laisser ce camion dont il pensait qu'il était peut-être en panne ou qu'il avait peut-être un problème de
pas de chauffeur
train. »
Exactement.
Ou, je ne peux pas laisser faire les choses. Il a assez vite compris que sans doute l'intention maligne était là. Et il a été un acteur déterminant pour faire arrêter effectivement ce véhicule. Il a réussi, à un moment où le camion ne pouvait plus avancer, à monter sur le marchepied. Et il s'est battu avec le terroriste, notamment en lui tapant vraiment violemment sur la figure. Il a été mis en joue.
Par une arme, tu veux dire ?
Oui, ouais, par une arme. Et finalement, Franck a vu comme ça, en l'espace d'un instant, beaucoup de policiers s'avancer, puisque le camion était arrêté, mettre en joue le tueur. Il s'est glissé à terre, il est passé sous le camion pour se protéger. Effectivement, le terroriste a été abattu à ce moment-là. Lui-même a été pris peut-être pour un terroriste dans les quelques minutes qui ont suivi. Mais c'est un garçon à qui on doit sans doute d'avoir épargné beaucoup de vies ce soir-là.
Tu dis que avant que les images soient saisies très rapidement, tu as vu ça. Si c'est trash, ne me réponds pas, mais ça veut dire que tu as vu des victimes aussi de l'attentat.
J'ai vu quelques images. J'ai vu quelques images effroyables, mais j'ai assez vite détourné le regard. Je n'ai pas voulu qu'elles m'imprègnent. Ce qui a été comment dire, plus difficile, c'est que dans la salle de crise où nous étions, beaucoup de télévisions étaient allumées sur les chaînes info, qui elles filmaient en continu en fait ces victimes sur la promenade recouvertes de draps, et donc nous avons été une bonne partie de la nuit effectivement environnés par ces images.
T'as réussi à faire en sorte qu'elles t'imprègnent pas?
Je ne sais pas, sans doute pas, mais elle ne me hante pas.
D'accord.
Elle ne me hante pas.
À la fin de la nuit, t'as fait quoi ?
À la fin de la nuit, je suis descendu sur la promenade des Anglais et je me suis rendu au centre universitaire de la Méditerranée où nous avions installé une sorte de centre d'accueil un peu médical. Beaucoup d'hôtels s'étaient rendus disponibles pour accueillir des blessés, etc., parce que des gens ont été médicalisés sur place. Puis on avait ouvert le centre universitaire de la Méditerranée, qui se situe vraiment sur la promenade des Anglais, pour être un peu un point d'accueil de gens qui cherchaient ou
des
gens qui avaient vu et qui étaient assez traumatisés par tout ça. Donc je suis resté, je saurais pas dire combien de temps, peut-être 2 heures, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment le moment de la confrontation directe. avec des gens qui cherchaient encore leurs proches, avec des gens qui venaient d'apprendre que leurs proches étaient blessés ou tués. Donc c'était vraiment très dur. Et là encore, ce sont des agents de la ville de Nice et puis des bénévoles d'associations qui étaient dans ce centre universitaire de la Méditerranée. Ils ont été remarquables pour prendre en charge tout ça.
Est-ce que toi, tu t'es assuré à un moment de la nuit que tous tes proches étaient à l'abri ?
Je savais que tous mes proches étaient à l'abri, en tout cas ma famille proche, puisque ouais. Quand j'ai quitté mon domicile, mes trois enfants et ma femme étaient là. J'ai su par la suite que des gens que je connaissais avaient été victimes de cet attentat. Des gens avec lesquels j'avais travaillé, je pense à un fonctionnaire de police notamment, des gens de la ville de Nice, des enfants de fonctionnaires que nous connaissions et que nous avons ensuite beaucoup accompagné, beaucoup suivi. C'est sur une, enfin, 30 000 personnes encore une fois qui assistaient à ce feu d'artifice. Le lendemain, et dans les jours qui ont suivi, beaucoup de gens m'ont fait part de leur propre expérience, de ce qu'avaient vécu leurs enfants, de ce qu'avaient vécu leurs proches, de ce qu'ils avaient pu vivre eux-mêmes. Toute la ville a été touchée en réalité.
C'est une des singularités de cet attentat, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enfants victimes.
Il y a eu beaucoup d'enfants victimes, beaucoup de femmes. C'était encore une fois la fête. C'est le 14 juillet. C'est la joie qui a été gâchée, détruite, piétinée. La promenade des Anglais aussi. Le lieu est très symbolique. C'est l'axe majeur, c'est probablement l'endroit le plus connu de la Côte d'Azur, qui a été souillé par cet attentat, par cet acte. C'est difficile, c'est un chemin difficile pour tous ceux qui l'ont vécu, effectivement, de dépasser cette horreur.
T'as eu du mal après à retourner sur les lieux ?
Non, j'y suis allé tout de suite, en fait. Comme je te l'ai dit, je suis allé au centre universitaire de la Méditerranée, ouais. qui est sur la promenade des Anglais. Donc j'étais sur les lieux de l'attentat, qui avait une configuration différente de celle qu'elle a aujourd'hui, puisque nous avons sécurisé immédiatement après tout cet axe. Il y avait un silence étrange. Très vite, des gens ont amené des fleurs. Mais je sais que certains n'ont pas pu revenir sur la promenade des Anglais encore aujourd'hui. Pour moi, il était important d'y aller tout de suite.
Est-ce que, là, tu me le racontes aujourd'hui, vraiment à distance de l'événement, est-ce que tu as réussi à en parler à tes proches ou est-ce que ça a été un truc très intérieur, très vite, cette nuit que tu as passée là?
C'est quelque chose que j'ai voulu garder. C'est quelque chose que j'ai peu partagé. Ce que je raconte aujourd'hui, je ne crois pas l'avoir raconté dans sa continuité comme ça à quiconque avant toi. Sans doute par difficulté de revivre cet événement. Et encore une fois, au bout de cette conversation qu'on est en train d'avoir, je me demande si je l'ai vraiment visité encore aujourd'hui. Est-ce que j'en ai encore pris toute la dimension? Sans doute pas. Je pense que la blessure existe et que oui, elle n'est pas digérée.
Ça a changé ta façon de vivre, t'as eu plus peur après d'être à Nice, t'as été plus vigilant ou pas?
On est, oui, plus vigilant, oui. Plus vigilant, oui, parce que on prend conscience quand on est directement confronté à ça que c'est possible, que ça existe, et même si on avait encore une fois nous, peuple français, été confronté à cette horreur dans les mois qui ont précédé, c'était chez nous, c'était sur les lieux que nous fréquentons. Donc il y a quelque chose de particulier qui s'opère. Et effectivement, une vigilance accrue, c'est important. Peur, non, parce que je n'ai pas peur de la mort pour ce qui me concerne, en tout cas pas de la mienne. Non, je n'ai pas eu de peur, mais il faut qu'on soit effectivement vigilant. Ces séquences de l'année 2015 et 2016 ont ouvert pour notre pays des périodes infiniment risqué et effectivement d'enfer.
On va pas tout rentrer dans les détails, mais la vie reprend son cours.
La vie n'a pas repris son cours tout de suite, en tout cas son cours normal ou son cours naturel, parce que immédiatement après, c'est l'effondrement de notre économie. Tout le monde part, tout le monde quitte la ville de Nice. Il y a les suites de l'attentat, toutes les suites. Il y a la nécessité de l'accompagnement des victimes sur lequel nous sommes beaucoup engagés et concentrés. Et en fait, tout ça ne nous a jamais quittés. Tout ça ne nous a jamais quittés.
Tu gardes des liens avec des victimes avec qui tu...
Oui, oui. Oui, j'ai continué de suivre pendant des années, pendant toutes ces années, les victimes à travers les associations qu'elles se sont données, à travers la préparation des hommages que nous avons conduits chaque année. Nous avons soutenu leurs projets de mémorial, leurs projets de musée, leurs projets de voilà, tous les projets qu'ils ont pu nous soumettre, nous sommes vraiment efforcés de les accompagner. Et puis, il y a eu un autre jeudi. Toujours ces jeudis...
Maudits.
Le 29 octobre. Où je suis dans une autre fonction... j'exerce à ce moment-là les fonctions de directeur de cabinet. Et alors que je suis dans mon bureau, en train de discuter avec un collaborateur d'un dossier culturel, je reçois un appel du directeur général des services qui m'annonce qu'un attentat, un autre attentat, est en cours dans une des églises de la ville de Nice, l'église Notre-Dame. Donc, je me dis c'est pas possible, ce cauchemar recommence. Je me précipite avec mon chauffeur, je me rends sur place et j'arrive, je pense, très très peu de temps après la commission des faits. J'arrive parce que un policier municipal me reconnaît. On a commencé à sécuriser un peu la zone. Les policiers nationaux arrivent à peine. J'arrive à passer la zone et à me positionner juste à côté de la basilique. Et là encore, l'horreur a recommencé avec un mode opératoire différent d'une équivalente barbarie, je dirais, puisque c'est au couteau qu'on a tué des innocents qui passaient dans une église pour prier ou parce qu'ils y travaillaient. Et là encore, c'est on se concentre, un point de concentration. On élimine tous les sujets d'affect. Je pense que les gens qui vivent des situations de guerre sont dans ce même état d'esprit où
mise à distance.
Oui, c'est ça. Le présent opère la mise à distance. Le présent, c'est d'être positionné, d'essayer de prendre du renseignement, d'accueillir le maire qui arrive quelques secondes après moi, avec le premier adjoint, et puis là encore tout de suite les autorités qui se manifestent, le curé de la paroisse qui arrive et qui découvre l'horreur qui s'est produite dans son église, avec, je l'ai dit, la mort de trois personnes, dont celui qui s'occupait de toute la gestion logistique de cette église. Dans le café juste à côté, on est encore en train d'essayer de réanimer la troisième victime qui décédera. Voilà, c'est un moment étrange, encore une fois, où le présent vous envahit tout entier.
Tu m'as dit que tu avais été marqué par deux choses en parallèle. C'est que les services de secours ont en parallèle essayé de maintenir en vie et de sauver l'auteur de l'attentat et cette femme qui est sortie après avoir reçu un nombre incalculable de coups de couteau.
Oui, c'est quelque chose qui m'a frappé, puisque à quelques mètres de distance, les pompiers s'efforçaient de maintenir en vie Simone. Elle s'appelait Simone, elle était d'origine brésilienne, c'était une danseuse très très sportive, très très vivante, une très belle femme. C'est elle qui a pu donner d'ailleurs l'alarme en sortant de l'église. Et effectivement, à quelques mètres d'elle, d'autres équipes prodiguaient aussi des soins pour maintenir en vie celui qui avait commis ces actes et qui s'était fait tirer dessus par les policiers municipaux de la ville de Nice, qui sont arrivés vraiment quelques minutes après la commission des faits. C'est très étrange, et lui a survécu et elle est partie.
Comment tu connais si bien le portrait de cette femme?
Parce que effectivement, j'ai suivi dans les semaines et dans les jours qui ont suivi les victimes et leurs familles. C'était donc trois personnes cette fois-là, dans un rapport plus intime. Et voilà, je les ai découverts. Je ne les connaissais pas avant et je les ai découverts
par leurs proches.
Par leurs proches.
Ça a duré combien de temps toute cette séquence entre le moment où t'arrives et
j'ai quitté les lieux après la venue des autorités. Le président de la République est venu sur place. Il me semble que c'était en milieu de journée, donc je suis resté je dirais 9h moins le quart jusqu'à midi et demi, 1h. Il y a eu aussi cet épisode où on ne savait pas s'il y avait d'autres terroristes à l'intérieur de la basilique. Donc je crois que c'est le GIGN qui est intervenu et qui a sécurisé l'intégralité de l'édifice. On entendait retentir les explosions parce que au fur et à mesure de leur progression, ils faisaient sauter les portes de tous les endroits qui étaient fermés dans la basilique. Il y avait des caves, il a fallu se rendre dans les tours. C'est une ravissante église, l'église Notre-Dame. C'est une copie en miniature de Notre-Dame de Paris.
D'accord.
C'est une église à laquelle les Niçois sont très attachés. Et Elle a souffert de tout ça. Et l'image que je garde de cet attentat, c'est le lendemain matin, une fois que toutes les constatations ont été faites, on a envoyé là encore des services de la ville pour nettoyer la basilique. Et je suis allé.
Pardon, mais nettoyer la scène de crime aussi?
Oui.
D'accord.
Oui. Et je me sentais le devoir d'être là et d'accompagner les équipes, la directrice de la logistique de la ville, Thérèse, avec les gens de la société de ménage. Et la dame qui faisait ce nettoyage était de confession musulmane, elle portait un voile et elle nettoyait le sol de l'église avec un appareil qui était rougi de sang. Et elle me disait, ce sont pas des musulmans qui ont fait ça, monsieur, ce sont pas des musulmans qui ont fait ça. Et c'était la percussion de cette barbarie faite au nom d'un islam qui, en réalité, n'existe
dévoyé,
pas.
Dévoyé, c'est ça, c'est pas...
Dévoyé, oui, qui choque beaucoup de nos concitoyens. C'était une scène bouleversante.
C'est un moment de communion.
Aussi.
Dit la juive qui ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais...
dans communion, il y a cette notion de commun, de communauté.
Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, évidemment. Je donne rarement mon avis dans ce podcast. Certains diraient un peu trop, pour autant, à l'inverse. J'ai l'impression que tu es plus ému par ce second attentat, intimement, plus écorché vif qu'à la suite du premier. C'est pas un manque de respect pour les victimes, hein, mais j'ai l'impression que intimement, l'écorchure est pas la même.
C'est peut-être est-ce l'épreuve de trop. Oui, j'ai été plus marqué effectivement par ce second attentat. Il y a aussi la proximité directe avec l'horreur, la confrontation avec les victimes que j'ai vues. C'est l'attentat de trop. C'est l'attentat de trop. Et il y en a eu d'autres, malheureusement. Et peut-être y en aura-t-il d'autres encore. Oui, celui-ci était pour moi l'attentat de trop. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est celui... C'est celui que je ne digère pas.
Concrètement, dans ta vie, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai cherché à passer... à le fuir, à passer par-dessus, c'est le plus inacceptable, c'est celui qui me met encore en colère, évidemment, tous ces attentats me mettent en colère, mais je n'arrive pas à trouver de l'apaisement quand je réfléchis à ce qui s'est passé. Tuer des gens au nom d'une religion, des gens qui vont prier dans une église, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible.
Je le dis évidemment, on s'est parlé souvent et longuement. Il n'y a pas un attentat qui ne te fait pas de peine, hein, qui te fait de la peine. Les deux t'ont dévasté, mais je te posais la question parce que je sais que quand on s'est parlé, tu as eu souvent les larmes aux yeux en évoquant celui-là, mais peut-être parce que tu as été au cœur physiquement de celui-là. Enfin, c'est mon analyse, mais...
Sans doute. Oui. Je me suis contenu, je me suis maîtrisé, c'est une horreur qui est encore très très vivante, très très présente dans mon esprit. J'expliquais ou je rapportais tout à l'heure cette image de la laveuse sur le sol de l'église rougie de sang, c'est très dur. Très dur.
Est-ce que t'es
déjà... Et ça a été très dur pour... ça a été très dur pour les gens qui étaient avec moi, qui ont participé à ça. Je parlais tout à l'heure de Thérèse, je parlais de cette dame. C'est très dur.
Est-ce qu'avec justement Thérèse ou cette dame ou d'autres, Vous avez un endroit où vous réunir pour en parler, ou au contraire, c'est un truc très individuel et qu'il n'y a pas de cette... Je trouve pas le bon mot parce qu'il n'y a que des mots positifs, mais ce groupe des gens qui ont traversé ça ensemble, quoi.
Alors, il n'y a pas de lieu ou de temps, effectivement, pour partager ça. En revanche, je sais que tous ceux qui ont traversé ça se connaissent dans la ville, notamment chez les agents. Nous avons traversé ensemble cette épreuve. Je parlais tout à l'heure de Thierry, d'Alain, je parlais un instant de Thérèse, mais j'ai évoqué aussi Anthony, Véronique, tous les gens qui ont été confrontés à ça directement. Nous savons que nous avons vécu ça ensemble. Et évidemment, aussi, avec le maire, c'est quelque chose qui nous lie à jamais. À jamais.
Est-ce que tu as déjà parlé à un psy pour essayer de digérer ces souvenirs?
Non. On a eu, à la suite du second attentat, la possibilité d'échanger avec un médecin. Je l'ai fait. Je sais pas si ça m'a apporté quelque chose. Je vis avec. On vit avec. On vit avec ce traumatisme. La vie, de toute façon, apporte à chacun son lot d'épreuves. Et voilà, il faut les traverser, il faut vivre avec. Je sais pas si je pourrais trouver de l'apaisement plus que celui que je peux trouver moi-même en réfléchissant à ces sujets et en essayant de donner du sens à l'existence que je vis. Pour être plus clair, moi je suis croyant je pense que nous sommes tous confrontés à des épreuves et que notre devoir et notre but, notre vocation est de les surmonter.
Est-ce que tu t'es pas dit après ça, maintenant je pars au Club Med être animateur jeu café après ou jeu apéro et foutez-moi la paix avec la responsabilité?
Je me suis pas dit comme ça, mais je me suis dit que il fallait arrêter effectivement d'être confronté peut-être toujours à ça, non pas pour fuir quoi que ce soit, mais je pense avoir effectivement eu mon lot.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai changé de métier. J'ai changé de métier quelques années après, hein, enfin une année et demie après. Et là, je suis content d'être un peu en recul par rapport à ces questions qui nous plongeraient dans la gestion de crise si elles se reproduisaient.
T'es heureux aujourd'hui ?
Je suis plus heureux qu'hier, oui.
C'est pas une réponse, c'est ta réponse.
C'est ma réponse.
Merci.
Merci à toi.